chaise sans me casser la figure, une fois de plus. Oula. Oups. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Et je voudrais profiter d'avoir la parole pour vous dire merci à chacun d'entre vous pour vos prières, pour moi, pour nous. Ces dernières semaines, ça m'a vraiment beaucoup aidée, soutenue. Et mercredi soir, après la réunion de prière, Jean-Marc et moi, on se disait combien on était heureux de vivre notre foi dans votre Église. Et c'était, voilà, un bonheur d'être avec vous et d'être au bénéfice de votre amour et de vos prières. Merci. Je vais essayer de ne pas faire trop long, parce que, comme d'habitude, quand on creuse la parole de Dieu, c'est comme un trésor. On tire un fil, et puis plus on tire, plus il y a des merveilles qui viennent derrière. Donc, je vais essayer d'être sobre. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. On va aller à l'école du dimanche, comme les enfants. On va se raconter plein d'histoires, et moi j'aime bien raconter plein d'histoires. Et on va essayer de découvrir un aspect de notre Dieu. Parce que je crois, comme on a entendu, que c'est important de s'attacher à la vérité, à la parole de Dieu, mais dans le fond, derrière la parole, il y a quelqu'un. Et c'est important de savoir à qui on a affaire, qui il est lui. Hein, pour se dire dans ces temps modernes, mais ça, est-ce que c'est de Dieu ou ça, est-ce que ça ne lui ressemble pas? On a besoin d'apprendre à le connaître pour qu'on puisse le reconnaître dans ces temps troubles. Alors, on va avoir quatre histoires. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les quatre, mais on va déjà au moins essayer d'en faire trois. Et on va commencer par l'histoire de Ruth. Alors, je retrouve mes bonnes pages. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui ne connaissent pas l'Ancien Testament, Ruth est une histoire qui se situe après la période des juges. Et elle raconte l'histoire d'un couple en période de famine en Israël, dans une ville qui est bien connue, qui est celle de Bethléem, la maison du pain, où il y a de la famine. Et ils ont décidé, avec leurs deux enfants, de partir dans un autre pays. Il faut dire que c'était une famille un peu morose. Ils ont appelé leur fils avec des drôles de prénoms, très dépressifs. C'était vraiment pas évident pour cette famille. Et ils vont partir en Moab, un pays à côté d'Israël où Dieu avait dit qu'il ne devait pas y aller pour des raisons géopolitiques et historiques. Donc voilà, ils font des choix qui ne sont pas évidents. Et donc ils partent et ils vivent là-bas avec leurs deux garçons. Ces deux garçons se marient. Et un jour, le père et les deux garçons meurent et la femme se retrouve veuve avec ses deux belles filles. Et ils apprennent qu'à Bethléem, ça n'est plus la famine. Ils décident de retourner, en tout cas, la belle-mère, la mère, décide de repartir en Israël avec ses deux belles filles et en route. L'une décide de retourner dans son pays, en Moab, et l'autre est accompagnée par sa belle-fille qui s'appelle Ruth. Et nous allons lire les versets Ruth, ce fameux verset 1 du chapitre 1, ou versets 16 et 17. Où Naomi, juste avant, dit à sa belle-fille, « Mais non, ne viens pas, c'est trop compliqué, tu peux pas, voilà, ne te coupe pas de toute ta famille. » Et Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Cette jeune femme a décidé de tout quitter pour aller vivre à l'étranger. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement m'adresser aux personnes, hommes ou femmes, qui sont étrangers. Choisir de quitter son pays, choisir de quitter sa famille, choisir de rompre avec sa culture, avec sa langue, avec tout ce qui faisait son histoire, son passé, ses racines, c'est pas facile. Mais beaucoup l'ont fait. Et beaucoup vivent aujourd'hui ici en France, en terre entre guillemets étrangère, que nous avons adoptée. Et on peut parfois avoir le sentiment qu'on ne remarque pas le prix qui est payé. Parce que c'est vraiment un prix certain. Et en plus, quand on répond à l'appel de Dieu. Alors, je voudrais m'arrêter sur un aspect de la personne du Seigneur qu'on peut lire dans Ruth. Au verset 2 et au verset 5, je veux dire, Ruth, chapitre 2, au verset 5, où Ruth est allée, donc est rentrée avec sa belle-mère, et elle est allée glaner dans les champs pour se procurer à manger. Et il y a un homme qui s'appelle Boaz, qui dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? On pourrait dire aujourd'hui avec quelle agence intérim cette personne est là pour travailler. On se rend compte que Boaz, qui est une préfiguration de Jésus-Christ, l'a remarqué. Il a fait attention à elle. Et après, elle répond, et au verset 8 et suivant, Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici, et attache-toi à mes servantes. Et les yeux sur le champ que l'on moissonne, et tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te chercher, de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant la face jusqu'à terre et elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue ?» Et j'ai tellement aimé cette phrase. Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue? Avoir de la reconnaissance, c'est exister. C'est avoir de la valeur. Pour celle qui n'était qu'une inconnue, une étrangère. Et Boaz lui répond, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait. » Et aujourd'hui, je voudrais dire à toute personne qui est étrangère ou qui peut avoir ce sentiment d'être inconnue ou étranger, étrangère, que Dieu t'a remarqué. Dieu t'a vu. Il sait tout de toi, on lui a tout raconté. Il te connaît, il est celui qui te voit. Le regard de Dieu est sur toi aujourd'hui. Et il n'y a pas d'indifférence dans le cœur de notre Dieu. Chacun devient quelqu'un qui est reconnu et qui n'est plus inconnu. Et s'il y a aujourd'hui des cœurs qui ont besoin d'être réparés, alors que le regard de Dieu sur vous répare cet aspect de votre existence. En tout cas, je peux témoigner que c'est ce que moi j'ai vécu il y a quelques semaines, et c'est suite à cette expérience que j'ai pu entamer cette prédication. On va passer à l'histoire numéro 2. C'est une histoire qui se trouve dans Genèse. Alors, Genèse au chapitre 16. Là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, on est avec l'histoire d'Abraham et de Sarai qui sont partis avec leur neveu Lot, qui était orphelin, pour aller dans un pays que Dieu allait leur montrer. Abraham est parti. Et Dieu lui a dit, va, prends ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et on sait aussi que la traduction de cette phrase, c'est aussi, va vers toi. Va vers toi. Et voilà qu'Abraham et Sarai se sont installés et elle était stérile. Les années passent, pas mal d'années. Pourtant, Dieu leur a promis une descendance aussi nombreuse que des grains de sable sur le sol. Mais comment cela va-t-il pouvoir se faire? Et comme dans beaucoup de situations, au bout d'un moment, on se dit, bon, il faut quand même qu'on prenne les choses en main, hein, parce que si je fais rien, voilà, la foi qui s'oppose à la raison. Et dans le cas présent, la raison a pris le pas. Et Sarai, tellement triste de cette situation, dit au chapitre 16 et au verset 2, Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. On s'attache beaucoup dans ce chapitre à l'histoire d'Abraham et de Sarai. Moi, je me suis arrêtée sur Agar. Et je dois vous avouer que j'ai été bouleversée par la vie de cette femme et par son témoignage. Agar était une servante égyptienne. On peut dire, probablement à cette époque, esclave. Probablement qu'elle avait été enlevée, comme ça se faisait beaucoup, lors de batailles, lors de combats. Ou alors que sa famille avait une bouche de trop à nourrir et l'a vendue. Ça nous choque, mais vous savez, aujourd'hui, 12 millions de fillettes sont mariées de force à l'âge de 12 ans. Récemment, une femme de 17 ans, mère de 3 enfants en Iran, a été assassinée. En Afghanistan, beaucoup de petites filles sont vendues dès l'âge de 9 ans. Et c'est vrai que la condition de ces femmes était terrible. On peut dire, et on le voit, qu'elles étaient bonnes à tout faire, si vous comprenez ce que je veux dire. Cette femme, Agar, depuis probablement son enfance, on ne sait même pas quelle a été son enfance, elle n'a jamais rien eu à dire. Elle a toujours dû servir, obéir, dans le silence. On ne lui a jamais demandé son avis, ni ce qu'elle voulait, ni quel projet de vie elle pouvait avoir. Et voilà que son maître la met enceinte, l'utilise. Alors, quand on lit, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Est-ce qu'on peut lui jeter la pierre? C'était la première fois qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui la mettait peut-être à un niveau d'égalité et qui lui permettait d'exister. Et regarder sa maîtresse avec mépris, c'était peut-être la réaction de revanche qu'elle pouvait avoir. Alors Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant elle se voit enceinte. Elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme tu le trouves bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. La gestation pour autrui n'est pas un élément moderne. Ça existait déjà à l'époque, avec toutes les conséquences cachées qu'il peut y avoir. Agar prend la fuite, première décision de sa vie. Première décision de sa vie. Elle prend la fuite. Et l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Elle était retournée à la frontière égyptienne. Elle devait se souvenir qu'elle devait peut-être venir de là-bas. Et il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » D'où viens-tu ? Et où vas-tu ? J'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Waouh. Mais pourtant, Seigneur, je suis maltraitée. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom Atai El Roy. Et c'est pourquoi le puits où elle a été rencontrée par Dieu s'appelle Lahai Roy. Lahai Roy veut dire le vivant qui me voit. Tout comme Dieu a vu Ruth, l'étrangère, Dieu a vu Agar, la femme servante, esclave, et qu'il l'a rencontrée dans son désert, dans sa difficulté. Dieu l'a vue. Et ça a bouleversé sa vie, puisqu'elle a décidé d'obéir à Dieu. Elle est retournée auprès d'Abraham et Sarai. Et là, elle a vécu avec eux pendant 14 ans. Pendant ce temps-là, il y a eu plein d'événements. Et à un moment donné, le miracle pour Sarai et Abraham est arrivé. Puisqu'à l'âge de 99 ans, Abraham est devenu père et Sarai a accouché d'un fils qui s'appelle Isaac. Situation familiale compliquée, pour le moins. Difficile. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Quand vous lirez toute cette histoire, il y a beaucoup de rire, chez l'un comme chez l'autre d'ailleurs. C'est une des marques de cette histoire. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et il plaça le garçon sur son dos et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Comment Dieu peut-il faire une chose pareille? Ça m'a toujours choqué. Comment Dieu peut dire « Ok, tu dégages » avec une outre et un peu de pain? On pourrait, à la lecture de ce texte, avoir un regard négatif sur la personne de Dieu. Et en réalité, il y a un message extraordinaire derrière cette attitude. Dieu décide qu'Agar doit partir. Elle doit aller vers elle. Pour la première fois, cette femme va pouvoir marcher dans la vie sans être servante, sans être esclave. Elle va devoir décider pour sa vie qui elle veut être et où elle veut aller. Quelque part, Dieu la rend libre. Dieu la libère de l'esclavage. Oh, les premiers pas, ce n'est pas une réussite, parce qu'elle y va avec ses propres forces. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'eau d'un arbrisseau pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Elle s'est perdue, elle s'est égarée, parce qu'on ne lui a jamais appris à se diriger dans sa vie. On ne l'a jamais aidée à prendre une décision, à se poser des questions, à devenir un être humain mature, autonome. Et c'est vrai que le premier pas, les premières étapes ont été le fait qu'elle se perde. Mais dans sa bonté, Dieu entendit la voix du garçon. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et dit, « Mais qu'as-tu, Agar ?» C'était la deuxième fois que Dieu la rencontrait dans le désert. Parce que Dieu, même quand on se plante, il nous repasse les plats. On peut dire les choses comme ça. « Sois sans crainte. » Sois sans crainte. Tu n'as pas à avoir peur, ni de ta situation, ni de moi. Car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Et là, Dieu lui dit, lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Il y a un miracle qui s'est passé. Dieu lui assure la sécurité pour l'avenir de son enfant. Il lui donne des consignes Et en fait, là où elle n'avait plus ses propres forces, c'est Dieu qui prend le relais, qui lui dicte ce qu'elle a à faire. Et plus encore, il lui ouvre les yeux. Le vivant qui la voit, comme elle a pu le découvrir la première fois, lui ouvre à son tour les yeux pour voir une source qui va répondre à son besoin essentiel de boire. Et ça me rappelle aussi nos rencontres avec le Seigneur quand il ouvre nos yeux sur une source d'eau vive. Ça me rappelle la Samaritaine qui a rencontré Jésus au puits et qui lui dit « Si tu savais à qui tu demandes à boire. » J'ai trouvé dans ce passage un tel message d'espérance. Dieu qui rend cette femme libre de tout esclavage et qui la conduit non pas vers l'indépendance, parce que Dieu ne nous veut pas indépendants, il nous veut autonomes et matures et dépendants de lui. Parce qu'il y a un miracle à cet endroit-là. Plus on est dépendant de Dieu, plus on est libre. Là où est l'esprit, là est la liberté. J'ai vécu quelque chose l'autre nuit de tellement fort par rapport à ça, que j'avais l'impression d'avoir des ailes qui me poussaient derrière mon dos. Je me suis dit, on ne s'arrête jamais sur cette femme Agar et sur le message que Dieu porte. On s'arrête effectivement sur Israël, sur la lignée, et tant mieux. Mais cette femme n'a pas été oubliée. Le vivant qui la voit ou qui me voit. Et aujourd'hui, il y a tant de personnes, surtout des femmes à qui doivent servir sans rien dire pendant toute leur vie, sans qu'on leur demande leur avis, sans qu'on fasse valoir le fruit de leur service, et qui ne sont pas reconnus ni entendus. Mais Dieu est celui qui nous rend la liberté au travers de cette source d'eau vive. Et si aujourd'hui quelqu'un parmi nous n'a pas encore fait cette expérience d'aller boire à la source d'eau vive, alors n'hésitez plus, parce que c'est vraiment la liberté qui nous attend. Dieu, le vivant, qui nous voit. C'était la deuxième histoire. Est-ce que j'ai le temps, encore un petit peu, d'aller à la troisième? Je ne pense pas qu'on aura le temps de faire les quatre. Vous voyez, quand je m'emballe, c'est terrible. On va aller dans le Nouveau Testament. Je vais essayer de ne pas faire trop long. 1, 2. Non, c'est pas ça. Voilà. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 1, tout au début du ministère de Jésus, juste après l'histoire avec Jean-Baptiste, et Jésus choisit ses disciples. On a vu, il nous est mentionné au chapitre 1 qu'il rencontre André, le frère de Simon-Pierre, et qu'il rencontre Pierre, qui vont manger avec lui chez quelqu'un. Hein. Et le lendemain, il y a Philippe, Jésus voit Philippe, il appelle Philippe. Et en fait, Philippe va chercher quelqu'un. Au verset 43, « Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'entrée et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Ben viens et vois. » Jésus fit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « Tu me connais d'où ?» Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël répondit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » C'est une histoire très courte qui parle de Nathanaël. C'est quasiment le seul endroit où on parle de lui. Hein ? Il porte aussi un autre nom, c'est Barthélemy. C'est son autre nom. Et en fait, Philippe va chercher un homme qui est sous un figuier, tout seul. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faisait tout seul sous son figuier. Était-il dans un temps de réflexion, de méditation ? Était-il déprimé sous son figuier ? Peut-être, parce que quand il dit à Jésus, peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth ? On m'en a raconté déjà plein d'histoires, tu ne vas pas me la faire celle-là. Hein? Peut-être qu'il était, pas en bonne forme. Hein? Mais Philippe va vers lui et le tire par la main. Il dit, viens, puis vois, puis tu verras par toi-même. Et là, Jésus le voit et dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Tu me connais d'où ? Alors là, quand même, la surprise de Nathanaël. Et là, Jésus lui dit qu'avant qu'il se rencontre, il l'a vu sous le figuier. Jésus aussi est le vivant qui voit. Il est le vivant qui voit. Il a vu Nathanaël. Il a vu où il était. Il a vu au-delà de la personne qui il était. Et le seul fait de dire ça à Nathanaël l'a convaincu de qui est le Christ. Je ne sais pas ce qui s'est passé en un verset. Il y a une puissance qui est là. Honnêtement, ça me fait envie. Hein? Mais c'est extraordinaire. En fait, Jésus a vu un homme qui était seul. Mais je me demande s'il n'a pas vu un homme qui était unique. Peut-être. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Bien souvent, nous avons tellement de sentiments de solitude. Et moi, j'aime bien transformer ce mot-là en le mettant dans un sentiment d'être unique. J'en parlais avec ma petite fille qui est adolescente de 15 ans l'autre jour. Et je lui disais, tu sais, tu es unique. Et ça fait peur. Ça fait peur d'être unique parce que dans notre situation, on a toujours besoin de s'identifier à d'autres, socialement parlant, de trouver son identité au contact des autres. Et inexorablement, on peut trouver des gens avec qui on se sent vraiment quasi comme un miroir et il y aura toujours des temps de déception. Et c'est normal, parce que nous sommes uniques. Et nous avons en fait à développer notre vie, notre identité, en tant qu'être unique. Et ça, c'est un défi de la vie, tout au long de notre existence. Et en fait, notre identité unique, elle ne peut qu'être confrontée au seul miroir qu'est Jésus-Christ, dans lequel je trouve la totalité de mon identité. ma sécurité d'être un être unique se trouve en la personne de Jésus. Et avec lui, je ne serai jamais déçue, parce que je trouverai en lui tout ce dont j'ai besoin et la totalité de qui je suis. Relever le défi d'être unique dans ce monde, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est extraordinaire. Et je pense qu'on peut le vivre avec Jésus. Et ça permet de voir l'autre et de trouver chez l'autre tout ce qu'il est avec ses richesses. On peut trouver des modèles. J'ai rencontré des hommes, des femmes, où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je voudrais ressembler à cette personne ? Mais je ne pourrais jamais ressembler en totalité, c'est pas possible. Je suis unique et cette personne est unique. Donc il y aura toujours des espaces dans lesquels je ne pourrai pas me retrouver. Mais en tout cas, je sais que Dieu me voit. Et que comme Nathanaël a rencontré son miroir en Jésus-Christ, il a pu dire, tu es le Fils de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. On ne parle plus beaucoup de Nathanaël après, plus du tout même. C'est quelqu'un d'extrêmement discret. L'histoire, la tradition semble l'avoir... placé comme ayant annoncé l'évangile du côté de l'Arménie et jusqu'en Inde, et où il serait mort dans des conditions effroyables, persécuté. Je pense que, en tout cas, ça a été un homme discret, mais un homme unique, qui a servi son Dieu tout au long de sa vie, jusqu'au bout. C'est moins le quart. Je vais pas pouvoir vous raconter la quatrième histoire. C'est dommage. J'aime bien raconter des histoires comme ça. Mais on va s'arrêter là parce qu'il y a l'Assemblée générale à faire. Donc, merci. Et que vous puissiez vous souvenir de cette dimension de la personnalité de Dieu. Il est le vivant qui vous voit, chacun dans votre situation. Et c'est un regard qui transforme et qui nous donne de le découvrir. Amen.